France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives, l'engagement selon Malraux. Chapitre 1, l'orateur de combat. Il y a quelques jours, un ami voulait savoir quel serait le sujet de la prochaine salle des archives. J'ai répondu en bombant très légèrement le torse pour souligner la noblesse de mon sujet, l'engagement selon Malraux. Comme cet ami est du genre moqueur, il m'a répondu en souriant à moitié. Alors comme ça, tu veux coller ensemble ces deux concepts démodés, Malraux et l'engagement ? Mon torse est immédiatement revenu à sa position initiale, celle de l'humilité. Mais je lui ai tout de même répondu que ni l'engagement, ni Malraux ne me semblaient passer de mode et que grâce aux archives, chacun allait pouvoir se faire sa propre opinion à ce sujet.
Je donnerai la peau et les os pour être un jour André Malraux.
Là où je suis d'accord avec mon ami, c'est sur le fait que Malraux est un concept, c'est-à-dire qu'il représente à lui tout seul une idée, un état d'esprit et peut-être même une époque. Mais cette époque, pour beaucoup, c'est le vieux monde, le monde de Gaulle et celui de Papa. Malraux incarne un style, une façon un peu spectaculaire de s'engager, qui n'a plus vraiment cours aujourd'hui, à part peut-être chez des gens comme...
J'ai la conviction et la preuve que les hommes font l'histoire, voilà, et que aussi bêtes sont les progressistes niais qui croient que quoi qu'on fasse, l'histoire va vers le mieux, que les spengleriens snobs et désespérés qui croient que quoi qu'on fasse, l'histoire va vers la décadence et vers le déclin. C'est ni l'un ni l'autre.
Oui, à part peut-être chez des gens comme BHL, Bernard-Henri Lévy, l'un des derniers représentants de cette génération d'écrivains toujours prêts à sauter dans un avion militaire, à sauver le monde et à revenir à Paris juste à temps pour un dîner en ville. Malraux, BHL et même Sartre, d'une certaine façon, ces modèles de grands hommes au style héroïque ne sont plus tellement à la mode. On les soupçonnerait presque de vouloir tirer la couverture à eux plutôt que de la relever sur les épaules de ceux qui en ont réellement besoin. On n'est pas loin de les accuser de vouloir être des super-héros ou de faire du French-splaining, un néologisme qui consiste à expliquer la vie politique et à donner des leçons de liberté sous prétexte que nous, les Français, nous avons fait la révolution en 1789. Alors oui, je voyais bien ce que mon ami voulait dire, Malraux incarne pour certains ce type d'écrivain-héros qui n'est plus tellement dans l'air du temps.
Je me pose une question. Pourquoi est-on en train d'embaumer Malraux ?
Pierre Sorlin.
Si on pense aux embaumements précédents, très vite, Victor Hugo, Jaurès, Jean Moulin, on voit très bien chaque fois quelle était la signification profonde de cette canonisation. Pourquoi est-ce qu'on ressort Malraux à l'heure actuelle et pourquoi est-ce qu'on le fait passer avant tant d'autres personnages qui sont aussi intéressants? Pourquoi est-ce que, par exemple, on va consacrer, je ne sais pas, trois journées entières de France Culture à un écrivain intéressant, important, mais pas fondamentalement plus important que les autres? Et c'est là la question que je me pose.
En ce qui me concerne, je ne sais pas si la littérature d'André Malraux est surévaluée, ni si son roman sur la révolution chinoise, La condition humaine, pris Goncourt en 1933, a mal vieilli. Peut-être, oui, mais là n'est pas l'essentiel. Car on peut adresser bien des reproches à l'homme Malraux. Sa grandiloquence, sa mythomanie, sa complaisance qui a duré trop longtemps envers le camarade Staline, sa manie aussi de découper à la scie les statues des temples khmers. Mais dans le même temps, qui peut se vanter d'avoir pris position contre le colonialisme dès les années 20, d'avoir combattu en Espagne contre Franco auprès des républicains et d'avoir ensuite participé à la résistance ? Qui peut se vanter d'avoir lutté en faveur de la culture pour tous et d'avoir marqué profondément le monde culturel en France ? En réalité, pas tant de gens que cela. Pour le reste, comme le disait Malraux lui-même, l'homme est ce qu'il cache, un misérable petit tas de secrets.
Ici le Panthéon, le général de Gaulle vient d'arriver à l'instant, sous un ciel gris par un temps glacial, accompagné notamment du Premier ministre, du ministre des Armées, de M. Malraux et de M. Saint-Denis.
L'engagement selon Malraux. Une série de salles des archives par Mathieu Garrigou-Lagrange, réalisée par Delphine Lemaire. Attachée de production, Lily Cornaer.
Cet engagement que Malraux a porté toute sa vie, quels en étaient les ressorts? À quoi croyait-il réellement? Était-il de gauche ou de droite, communiste ou gaulliste? Qu'est-ce qui motivait son engagement? Le goût du panache ou bien des valeurs profondes? Et puis comment s'articuler son grand individualisme avec cet engagement sincère envers ce qu'il croyait être le mieux pour tous? Ces questions, nous allons bien sûr les aborder tout au long de cette série. Mais ce qui est certain, c'est que son engagement était soutenu par plusieurs qualités personnelles et que l'une de ces qualités était l'éloquence dont nous allons parler dans ce premier épisode. Or, nous avons vu encore récemment que l'éloquence en politique n'était pas forcément démodée.
Washington est devenue la cour de Néron, un empereur incendiaire, des courtisans soumis et un bouffon sous kétamine chargé de l'épuration de la fonction publique.
Dans un monde de nouveau incertain, nous reprenons conscience que les récits sont des armes et le lyrisme d'un homme politique comme le sénateur Claude Malhuret dans son discours anti-Trump n'a pas paru désuet aux millions de personnes qui l'ont visionné sur les réseaux sociaux. Dans certains moments de l'histoire, les sociétés ont bien besoin de discours épiques pour mobiliser collectivement. C'était vrai hier, ça l'est encore aujourd'hui.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame.
À l'heure du retour de l'histoire, l'engagement par le verbe pourrait donc bien retrouver ses lettres de noblesse, car nous avons besoin de récits pour nous rassembler. D'ailleurs, les discours politiques dont on se souvient ont pour la plupart une grande dimension littéraire. Et cette arme du verbe, cette force du récit et du mot juste pour donner un sens au monde, Malraux s'en était fait l'apôtre. Il y a des mots qui dépassent les hommes et les femmes qui les prononcent, des idées qui vont plus loin que ce misérable petit tas de secrets qui a jalonné leur vie. Des phrases où ce n'est plus celui ou celle qui parle qui compte, mais bien ce qu'il dit et ce qu'il représente.
Et c'est un vieux pays. La France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie.
En cela donc, Malraux est actuel, car l'époque réclame une nouvelle éloquence, à l'heure où les discours du président de la première puissance du monde se contentent de qualificatifs comme « great »,« bad »,« amazing » et « horrible ». Dans la voix de Malraux, les mots donnaient une direction à suivre. Ces discours dépassaient l'homme qu'il était. On peut donc reprocher à Malraux une certaine grandiloquence, ça oui, mais cette grandiloquence, il l'a mise au service de grandes causes.
Monsieur le ministre d'État, chargé des affaires culturelles.
Monsieur le président de la République, voilà donc plus de 20 ans que Jean Moulin partit par un temps de descente sans doute semblable à celui-ci, pour être parachuté sur la terre de Provence et devenir le chef d'un peuple de la nuit.
Nous allons donc nous arrêter sur son discours le plus célèbre, celui par lequel Malraux a donné à la destinée tragique du résistant Jean Moulin un éclat supplémentaire. En donnant la chair de poule à des millions de femmes et d'hommes qui ont entendu cette oraison funèbre, il a achevé de faire de Jean Moulin une légende et un modèle. En cela, son discours était un acte. Allez, il faut que je m'arrête parce que moi aussi, je vais devenir un peu grandiloquent.
Sans cette cérémonie, combien d'enfants de France sauraient son nom ? Il ne le retrouva lui-même que pour être tué. Et depuis, sont nés 16 millions d'enfants.
Alexandre Duval-Stalla, vous êtes avocat, auteur chez Gallimard d'une biographie croisée d'André Malraux et de Charles de Gaulle. Vous êtes également le président du prix André Malraux, qui distingue chaque année un roman engagé et un écrit sur l'art. Ce discours de la panthéonisation de Jean Moulin, c'est le plus célèbre de André Malraux. Est-ce qu'on peut dire, cependant, que c'est un discours engagé ?
Alors en fait, c'est un discours engagé à plusieurs titres. D'une part, parce que nous avons l'impression que Jean Moulin était une figure de la résistance et qu'elle a toujours été célébrée, mais en réalité, ce discours fait renaître Jean Moulin de ses cendres.
Donc au fond, sans Malraux, Jean Moulin ne serait pas aussi grand et ne représenterait pas autant de choses pour les Français.
On n'aurait pas de Jean Moulin sans ce discours, en réalité.
Il est peut-être engagé aussi dans le sens où ce discours de la panthéonisation transmet un message aux 16 millions d'enfants de France qui n'ont pas connu la guerre. Il le dit d'ailleurs dans le discours. Donc l'engagement en ce sens, c'est transmettre pour perpétuer un souvenir et donc pour perpétuer la paix au fond.
Oui, il y a effectivement chez André Malraux la volonté de transmettre à tous ses enfants nés après la guerre le souvenir de la résistance, de la lutte contre l'oppression et de tout un certain nombre de valeurs humaines qu'il considère que la résistance a défendues et que le général de Gaulle en est bien évidemment le héros.
À travers Jean Moulin, ce sont tous les résistants et les résistantes de France à qui Malraux a rendu hommage. Lui-même s'est battu pour libérer la France, bien qu'il s'engage tardivement. Nous reviendrons sur ce point lors de notre épisode consacré spécifiquement à la résistance. En ce jour de la panthéonisation de Jean Moulin, tout près du cercueil se trouvait un homme qui s'était engagé dès les premiers jours de l'occupation. Il s'agit de Daniel Cordier, qui avait 19 ans quand il avait rejoint le général de Gaulle à Londres. Il était ensuite devenu le secrétaire personnel de Jean Moulin et on trouve son témoignage dans la salle des archives.
J'étais parmi les compagnons de la Libération que l'on avait placés devant les marches qui montent au Panthéon. C'était un groupe tout à fait isolé et le hasard m'a mis au premier rang et j'étais juste sur le côté de Malraux et un peu derrière. C'est-à-dire que, d'abord, il y a une chose que je voyais, c'était la chaufferette qui était sous le pupitre.
Oui, on est le 19 décembre 1960.
Parce qu'il faisait un temps terrible. Il y avait un vent glacé. Et ce vent a été admirable pour enrichir ce discours déjà tout à fait extraordinaire. Parce que, on avait mis les haut-parleurs suspendus au début de la rue Soufflot et le vent faisait balancer cet immense haut-parleur carré. Et alors, tout d'un coup, la voix de Malraux disparaissait quasiment quand il était au fond. Et tout d'un coup, ça revenait brusquement. Et alors, il y avait une voix terrible, assourdissante. C'était toujours Malraux. Et je me souviendrai toujours, c'était bouleversant.
Alors ce dont se souvient Daniel Cordier, c'est du froid, c'est du vent qui fait comme ça bouger. Alors, les enceintes, il y a quelque chose un petit peu d'épique.
Tout est extraordinaire dans ce moment de ce discours, parce que vous avez à la fois effectivement le son du micro, qui a un son particulier aussi. Vous avez le style d'André Malraux, qui comme ça scande au fur et à mesure, et qui monte peut-être presque en puissance au fur et à mesure de son discours pour arriver au point d'orgue final. Et puis vous avez ce froid, vous avez cette assemblée, vous avez le général de Gaulle avec sa grande vareuse, tout est très solennel, l'ensemble du gouvernement, vous avez Laure Moulin qui est là aussi, enfin c'est un moment à la fois solennel et puis avec des choses, comme toujours d'ailleurs dans les grands moments, un peu cocasse, c'est-à-dire effectivement ce problème de ce vent qu'on entend d'ailleurs dans et qui va sublimer aussi ce discours.
En 1964, vous diriez que Malraux représentait quoi pour les Français ?
Alors, il y a le Malraux officiel, qui est donc le compagnon du général de Gaulle, celui qui se met... C'est quand même une figure de gauche, André Malraux est une figure de gauche, le seul révolutionnaire qui a réussi, c'est-à-dire à la fois celui qui va se battre contre le colonialisme dans les années 20, se battre contre le fascisme dans les années 30, s'engager, certains diront tardivement, mais en tout cas, il s'est engagé dans la résistance, et puis en 45... En gros, entre les gaullistes et les communistes, il n'y a rien. Et il va choisir en homme de gauche le général de Gaulle, expliquant d'ailleurs, lors de sa première rencontre, « J'ai épousé la France ». Et d'ailleurs, dans les thèmes de tous ces discours qui vont suivre, il y a une sorte de triptyque entre le général de Gaulle, la France, et puis les valeurs, effectivement, de la République. Avec en filigrane, en fait, une obsession chez André Malraux, qui est quand même la question de la mort, c'est-à-dire d'échapper à la mort. Et d'ailleurs, tous ces discours, si c'est des oraisons funèbres, c'est pas par hasard, c'est qu'effectivement, il y a quand même une confrontation à travers l'ensemble de ces discours avec la mort.
Soyons honnêtes, je n'ai pas eu à chercher longtemps dans la salle des archives ce discours de la panthéonisation de Jean Moulin tant il est célèbre. Malgré tout, on ne l'écoute pas souvent en longueur, or c'est en partie sa progression qui lui donne toute sa force. En voici donc un extrait un peu plus long que d'habitude pour vous permettre de saisir cette montée en puissance. Vous allez entendre que Malraux y mêle sans cesse le destin de Jean Moulin avec celui des autres combattants et combattantes qui ont permis de libérer le pays.
bafoué, sauvagement frappé, la tête en sang, les organes éclatés, il atteint les limites de la souffrance humaine sans jamais trahir un seul secret, lui qui les savait tous. Comprenons bien que pendant les quelques jours où il pourrait encore parler ou écrire, le destin de la résistance est suspendu au courage de cet homme. Comme le dit Mademoiselle Moulin, il savait tout. Georges Bidault prendra sa succession. Mais voici la victoire de ce silence atrocement payé. Le destin bascule. Chef de la résistance, martyrisé dans des caves hideuses, regarde de tes yeux disparus toutes ces femmes noires qui veillent nos compagnons. Elles portent le deuil de la France et le tien. Regarde glisser sous les chaînes nains du Quercy, avec un drapeau fait de mousseline nouée, les maquis que la Gestapo ne trouvera jamais parce qu'elle ne croit qu'aux grands arbres. Regarde le prisonnier qui entre dans une villa luxueuse et se demande pourquoi on lui donne une salle de bain. Il n'a pas encore entendu parler de la baignoire. Pauvre roi supplicié des ombres, regarde ton peuple d'ombre se lever dans la nuit de juin constellé de tortures. Voici le fracas des chars allemands qui remontent vers la Normandie à travers les longues plaintes des bestiaux réveillés. Grâce à toi, les chars n'arriveront pas à temps. Et quand la trouée des alliés commence, regarde, préfet, surgir dans toutes les villes de France les commissaires de la République, sauf lorsqu'on les a tués. Tu as envié comme nous les clochards épiques de Leclerc. Regarde, combattants, tes clochards sortir à quatre pattes de leur maquis de chêne et arrêter avec leurs mains paysannes formées au bazooka l'une des premières divisions cuirassées de l'Empire hitlérien, la division d'Assrache. Comme Leclerc entra aux Invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique, entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi, et même ce qui est peut-être plus atroce, en ayant parlé. Avec tous les rayés et tous les tondus des camps de concentration, avec le dernier corps trébuchant des affreuses files de nuit et brouillard, enfin tombés sous les crosses, avec les 8000 Françaises qui ne sont pas revenues des bagnes, avec la dernière femme morte à Ravensbrück pour avoir donné asile à l'un des nôtres, entre avec le peuple né de l'ombre et disparu avec elle, nos frères dans l'ordre de la nuit.
Alexandre Duval-Stalla, ce discours, qu'est-ce qu'il nous fait et qu'est-ce qu'il vous fait ?
Moi, j'ai eu deux grands-oncles qui, l'un a été déporté à Auschwitz, par erreur d'ailleurs, parce qu'il était curé, et puis il sera après déporté dans d'autres camps, et l'autre a été fusillé parce qu'il n'était pas prêtre, donc forcément, ça a une résonance particulière. Et je pense que dans ce discours, ce qui est extraordinaire, c'est en fait tel qu'il est écrit. Parce que si ça avait été qu'un comédien, bon, on peut en trouver, mais là, il y a quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus intense, et même quand il dit, par exemple, de ceux qui n'avaient pas parlé, de ceux qui avaient parlé, ce qui était peut-être pire, il y a une puissance chez André Malraux de compréhension des choses, de ces moments, de cette résistance presque infime, finalement. Peu de personnes se seront engagées comme ces résistances sont engagées, tous ceux qui ont été torturés, et ça, c'est quand même quelque chose qui nous rappelle que la France, c'est peut-être avant tout cette histoire magnifique de cette résistance qui a su à ce moment-là se sacrifier au service d'un projet politique qui était beaucoup plus grand que nous et qui impliquait effectivement toutes ces grandes réformes sociales qui ont eu lieu par la suite.
Parce que chaque mot qu'il prononce, c'est des mots qui font référence à quelque chose qu'il a vécu. Et c'est peut-être ça aussi qui s'entend en sous-texte. C'est-à-dire qu'il prononce des mots mais il ne les prononce pas dans le vide. Il raconte sa propre histoire.
Oui, et puis il raconte des choses qui parlent en fait aux gens. Quand il parle des grands chênes, quand il parle des femmes noires de Corrèze, qui sont chacune sur la tombe d'un des leurs quand on a interdit qu'on vienne.
Qui sont noires parce qu'elles ont elles châles.
Parce que les femmes de Corrèze de l'époque et effectivement étaient en deuil. Venaient sur les tombes. On leur interdit finalement d'aller sur la tombe de ceux qui ont été fusillés et elles vont sur la tombe des leurs. Une manière de protester de manière silencieuse. Donc il y a plein de petits éléments dans ce discours qui nous le rend à la fois très intime, très très proche, et que peut-être la grandiloquence du ton ne minore jamais, enfin n'obère jamais cette simplicité en fait du discours.
Et aussi cette façon de tutoyer Jean Moulin qui est très émouvante.
Oui, parce que encore une fois, ils sont d'ailleurs compagnons de la Libération. André Malraux est compagnon de la Libération aussi. Il y a une fraternité en fait d'armes. Dans la résistance, et d'ailleurs ce n'est pas un hasard si le général de Gaulle n'accepte à ses funérailles que les compagnons de la Libération. C'est-à-dire en fait, comme d'ailleurs le dira dans les chaînes qu'on abat André Malraux, c'est le chevalier et ses compagnons, quoi. C'est ça qui est très fort, oui.
Est-ce que vous diriez, Alexandre Duval-Stalla, qu'au fond, l'éloquence d'André Malraux, ça a été toujours, que ce soit pendant la guerre d'Espagne, pendant la résistance, et encore avec ce discours-là, son arme, ce avec quoi il pouvait se battre et concrétiser son engagement?
Oui, les mots ont été pour André Malraux ses armes favorites, même s'il s'est engagé dans la guerre d'Espagne, puis dans la résistance. Mais c'est vrai que le génie d'André Malraux, c'est quand même son verbe. Au commencement était le verbe, et je pense que c'est ça en fait la force, parce que l'éloquence pour l'éloquence, ça marche peut-être un temps, on peut faire un feu d'artifice, mais sur le long terme, en fait, la force du verbe, elle vient parce que derrière, en fait, André Malraux, c'est d'abord des convictions, c'est d'abord une culture immense, incroyable, et c'est une réflexion finalement sur le destin des hommes. Parce que ce discours, c'est aussi une grande réflexion, hein, finalement, sur l'action humaine. C'est-à-dire, pourquoi s'engager en réalité? Pourquoi souffrir? Pourquoi Jean Moulin, effectivement, et d'autres, hein, vont souffrir tous ces supplices? Et ils le font parce qu'il y a quelque chose qui les dépasse, et je pense que c'est ce qui, pour André Malraux, a été très fort. Alors lui, il le lit très beaucoup avec la mort, qui est quelque chose qui est très fort chez lui, mais finalement, c'est d'arracher à la fatalité de la vie, à la fatalité du monde, quelque chose d'humain.
Mais quand il parle d'histoire, comme il le fait dans ce discours, il le fait avec l'aide de la littérature, parce qu'il sait que la littérature est capable de soulever les masses et d'enthousiasmer les foules. Et c'est peut-être quelque chose qu'on a oublié quelque temps, et on l'a entendu dans l'introduction de cette émission, qui a peut-être tendance à revenir dans des moments où l'histoire, précisément, est en train de revenir aussi.
Alors en fait, je pense que le verbe a toujours été une dimension essentielle du politique, c'est-à-dire que il n'y a pas de politique sans récit, sans fiction d'une certaine manière. Et d'ailleurs, Homère, c'est d'abord des chants qui ensuite seront transcrits, mais c'est d'abord un chant. Donc ce verbe est extrêmement important. Et vous avez d'ailleurs sorti un extrait de Claude Malhuret, mais en réalité, Donald Trump a aussi son propre verbe. Il est peut-être fait de mots
de peu de mots
réduits, mais qui sont effectivement des...
Donc il fait de la littérature d'une certaine façon.
Il fait pas de littérature, mais il a bien compris que effectivement c'était les discours qui gouvernaient le monde.
Pauvre roi supplicié des ombres, regarde ton peuple d'ombre se lever dans la nuit de juin, constellé de tortures.
On retrouve dans cet enregistrement la célèbre voix chevrotante d'André Malraux. Mais ce n'était pas évidemment la même que dans ses interviews quand il parlait calmement avec ses interlocuteurs. L'écrivain et prix Nobel de littérature Roger Martin Dugard avait d'ailleurs décrit ainsi la voix d'André Malraux après l'avoir entendue dans une table ronde. Elle est comme une haleine, sans cesse en train d'expirer. Élocution très rapide et déliée, de longues phrases compliquées et chargées de pensées subtiles qu'il souffle en tout sautant.
Ce qui est réellement important, c'est que à partir du moment où le fait de la mort est pensé, il sert de pôle pour rendre intelligible un certain nombre d'éléments de la vie qui, sans la notion de mort, seraient impensables.
Alexandre Duval-Stalla, la voix chez Malraux, c'était évidemment très important.
Oui, alors il y a une anecdote, c'est un jour Gide part de chez lui et va à la gare parce qu'il part en voyage et André Malraux est là, il rentre dans la voiture et pendant tout le trajet, Malraux ne cesse de parler à Gide et à la fin Gide dit il est quand même assez extraordinaire, c'est qu'il nous a tenu la jambe pendant tout le trajet du taxi avec des raccourcis, des fulgurances, plein de choses extraordinaires et c'est vrai que c'est André Malraux. On le voit, alors il est plus fatigué effectivement dans ses dernières interviews, mais c'est un feu d'artifice.
Un homme de la parole.
C'est vraiment un homme de la parole qui mélange plein de choses, qui fait des rapprochements. D'ailleurs, si beaucoup d'historiens d'art ont parfois critiqué ses essais sur l'art, c'est parce qu'il faisait des rapprochements qui étaient complètement incongrus, mais qui avaient une signification très marquée.
Aujourd'hui, jeunesse, puisses-tu penser à cet homme comme tu aurais approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour de ses lèvres qui n'avaient pas parlé. Ce jour-là, elle était le visage de la France.
Alexandre Duval-Stalla, est-ce que vous savez si c'est Malraux qui avait choisi qu'on entende à la fin de ce grand discours de panthéonisation, ces tambours et ensuite le chant des partisans, après il y aura la musique funèbre de Chopin. Autrement dit, est-ce qu'il était aussi un metteur en scène de ce moment-là ?
Oui, il a mis en scène en gros tous les grands événements de la République gaullienne naissante, depuis la célébration, alors avant le vote du référendum sur la Constitution de 58, donc de la libération de Paris en août 58, ensuite pour célébrer la Nouvelle République, et donc il a toujours effectivement été le grand organisateur des événements gaulliens. Oui.
Donc on sent que l'émotion est toujours présente chez Malraux, à la fois quand il parle, à la fois dans l'esthétique qu'il souhaite donner à ces grands événements. Il n'y a pas d'éloquence s'il n'y a pas d'émotion, je veux dire d'éloquence vraie, qui ne fasse pas justement grandiloquente.
Ça doit être forcément un mixte entre une éthique du discours, c'est-à-dire que André Malraux a l'autorité et la légitimité pour dire ce discours. Il y a aussi, bien évidemment, sa culture qui est très très forte. Et puis, il y a le pathos, c'est-à-dire cette manière d'aller dire quelque chose qui va toucher les autres. Et ça, bien évidemment, la vraie éloquence arrive à réunir ces trois vertus, quoi. Il faut bien comprendre que il a été à la meilleure des écoles, c'est-à-dire que il a été dans les années 20 contre le colonialisme, puis après contre le fascisme. Donc, il a toujours été opposé à des foules qui étaient bon, soit déjà convaincues, soit à convaincre. Donc, vraiment, il s'est battu. Et puis, on n'était pas dans une espèce d'atmosphère très éthérée comme on peut le connaître aujourd'hui, où finalement l'orateur est assez protégé. Lui, il n'était pas protégé, il était vraiment dans le bain. Donc, il sait prendre une foule, il sait scander, il sait retenir l'attention. Et ça, c'est le génie de l'orateur qu'il est.
Donc, au fond, d'avoir appris à parler devant un public lui donne ces qualités-là, donne ces qualités-là à son discours. Est-ce que aujourd'hui, quand on prend la parole, c'est bien souvent de façon numérique ou de façon médiatée par les réseaux sociaux, les écrans ? Est-ce que ça change quelque chose, selon vous, à la notion d'éloquence ?
Oui, parce qu'en fait, il y a différentes formes d'éloquence. L'éloquence judiciaire n'est pas la même que l'éloquence parlementaire, par exemple. Et d'ailleurs, l'éloquence parlementaire n'est pas la même aujourd'hui qu'elle ne l'était sous la Troisième République. À l'époque, il n'y avait pas de micro, il fallait se faire entendre. Aujourd'hui, il y a des micros, on coupe les autres, donc on n'entend que celui qui parle. En sachant qu'on sait qu'il y a des techniques, et on sait bien qu'en fait, le temps d'attention est un peu limité par personne. Donc, si vous ne changez pas de pied, si vous ne changez pas de ton, tout ça, bah, en fait, vous perdez l'attention. Et André Malraux, dans ce discours, est pour ça, est un génie, parce qu'à chaque fois, il relance, à chaque fois, on voit que, et on est tenu, quoi. On attend la fin, et presque quand la fin est arrivée, on en demande encore.
Les écrivains d'aujourd'hui sont-ils toujours engagés de la même façon ? Ne mettent-ils pas davantage l'accent sur des récits personnels que sur des épopées collectives ? Les romans que nous lisons, dans leur grande majorité, ne parlent en effet pas de révolution, ils ne parlent pas beaucoup de transcendance, ni du destin des peuples. Ils retracent en revanche des parcours de vie, exposent des personnages auxquels les lectrices et les lecteurs peuvent s'identifier plus facilement. La littérature engagée d'aujourd'hui ne l'est-elle pas d'abord en faveur de la liberté individuelle ? C'est une question que nous pouvons garder en tête. Toujours est-il que pour Malraux, les discours et les prises de position ne suffisaient pas, il lui fallait agir. Et c'est ce qu'il a essayé de faire, parfois avec panache, parfois sans éviter les contradictions, comme lors de ses voyages en Asie, entre pillage de statues cambodgiennes et critique du colonialisme français. On en parle dans le prochain épisode.